Bonjour à tous. On m'entend bien? Très bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça s'est un peu rafraîchi, hein, ça vous a fait du bien. On a pu un peu mieux dormir, en tout cas pour moi. Puis il fait encore très chaud. Alors, est-ce que tu peux peut-être mettre le PowerPoint? On va prendre aujourd'hui un texte qui se trouve dans Luc au chapitre 23. Mais avant ça, comme d'habitude, j'aime bien commencer par une petite illustration, une question, un peu de culture générale. Et la question de ce matin, c'est la suivante. Est-ce que vous connaissez, vous reconnaissez cet endroit? Alors non, il ne s'agit pas des États-Unis, comme j'ai entendu. Il s'agit de la rivière Zambézi. Je pense que personne n'en a entendu parler. Quelle est la particularité de cette rivière? Il faut savoir que c'est le seul endroit au monde qu'on appelle un quadripoint. C'est quoi un quadripoint? C'est un endroit où il y a quatre pays qui se rejoignent en un seul point. Alors, c'est pas exactement vrai, hein, toujours des gens qui vont chercher un peu la petite bête. En fait, il y a un double tripoint à quelques mètres l'un de l'autre. Mais voilà, il faut s'imaginer un endroit où quatre États, quatre pays différents se rejoignent. Et c'est intéressant parce que, imaginez quatre gouttes d'eau qui proviennent du même nuage, qui tombent à quelques centimètres, quelques décimètres, quelques mètres les unes de ces autres, alors qu'elles viennent du même endroit. Elles sont positionnées à quelques millimètres d'écart, et bien pourtant, ces gouttes d'eau peuvent se retrouver dans des pays différents. Un quadripoint. Alors pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est bien pour la culture déjà, mais pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on va étudier un texte dans Luc au chapitre 23, que vous avez dû normalement lire avant d'arriver au culte, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire nous. Et c'est un chapitre qui est clé, c'est le chapitre de la croix. On va arriver au point culminant de cet évangile. Ça fait depuis le début de l'année qu'on l'étudie et ça y est, enfin on arrive au moment décisif, le moment qui a changé l'histoire. Et on va suivre là où le temps se ralentit. On va voir ce que va faire Jésus heure après heure, minute après minute. On va voir son procès et sa crucifixion. Et dans le récit qu'on va voir, que vous avez déjà dû lire, il va y avoir plein de protagonistes différents qui, eux, vont se positionner différemment face à Jésus, face à la croix. Et ce qu'on va voir, c'est que leur position, un peu comme ces gouttes d'eau, elles vont faire plus que déterminer dans quel pays ils sont. Mais ça va déterminer leur éternité. C'est ça qu'on va voir. Et donc la question qu'on va se poser ce matin, c'est la suivante. Et toi, quelle est ta position face à Jésus? Quelle est ta position face à la croix? Alors je précise, ce message va être frustrant. On n'aura pas le temps de tout voir ni d'étudier. On ne va pas voir en détail toutes les prophéties accomplies du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, toutes les implications, tout le sens derrière ces dernières paroles de Jésus. Et c'est pour ça, si vous avez le temps cette semaine, dans les jours qui viennent, durant ces vacances, de prendre le temps d'étudier ce qui se passe à la croix. C'est un thème qu'on connaît, qu'on a l'impression de connaître et qu'on banalise, mais pourtant il y a tellement de choses, tellement de richesses dans si peu de versets. Ce qu'on va faire ce matin, c'est prendre les différentes positions de ces protagonistes et voir comment nous aussi, finalement, ces positions-là, ce sont malheureusement les nôtres aujourd'hui en 2022. Et voir comment on répond à ça et comment cette réponse va faire plus que déterminer en quel pays on est, mais surtout va déterminer notre éternité. Je vous invite à prier et on va prendre ce texte. Père, merci pour ce texte qui est si riche. Merci pour ton évangile qui nous relate ta vie, ta mort et ta résurrection. Il faudrait des heures et des heures pour creuser tout ce que tu as à nous dire et on a juste envie que tu nous parles ce matin. Tu le vois, on arrive à ce moment décisif, celui de la croix. Et je te prie qu'à l'étude de ce texte, on puisse comprendre pourquoi tu as fait cela. Pourquoi il a fallu que tu ailles à cette croix? Aide-nous à avoir une vision plus claire et plus juste de ce qu'il se passe ici. Aide-nous à façonner nos cœurs à ta vérité et pour ta gloire. En ton nom, Seigneur. Amen. Ta position face à la croix. Et donc, on va voir les premiers personnages de ce texte. Ce sont les autorités religieuses. Alors, j'ai englobé dans les autorités religieuses, que ce soit les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, toutes ces personnes-là. Or, c'est des personnes qu'on a déjà vues. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques mois, ça fait plusieurs fois qu'on les rencontre. Et à maintes fois, ils sont là pour être en confrontation avec Jésus. Ça fait plusieurs mois qu'on voit qu'il cherche à le faire mourir. Et là, dans le texte de ce matin, en Luc chapitre 23, c'est encore plus flagrant. Juste quelques versets qui nous montrent ça. On voit qu'ils vont même arriver à mentir en disant, ils arrivent de Pilate, le gouverneur de Judée, on va voir après qui c'est. Ils vont lui dire, mais hey, cet homme, il ne respecte pas le tribut de César. Ce qui est faux, lorsqu'il lui demande s'il respecte le tribut, il va leur répondre par une autre question. Je vous ramène vers le message qui avait été prêché sur ça, sur le site internet. Il va dire que celui-là se prend pour le roi. Ils vont chercher à le faire mourir. Ils vont crier pour qu'il soit crucifié. On nous dit qu'il l'insulte violemment. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ils essayent de mettre Christ en porte-à-faux auprès de Pilate, auprès d'Hérode et de toutes les personnes-là pour que cette personne-là soit crucifiée, pour qu'il meure. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que cet homme, Jésus, se présente lui-même comme le Messie, comme le roi. Et ça, ça les dérange. Le tribut de César, d'une certaine manière, ça leur importe pas tant que ça. C'est un moyen pour eux qu'ils ont de pouvoir un peu titiller l'oreille de Pilate. Ce qui les dérange, c'est que Jésus se prétend comme le Messie, comme le roi, comme celui qui vient accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament, ce roi de la descendance de David. Le problème, et c'est pour ça que ça les dérange, c'est que si Christ est vraiment le roi, s'il est vraiment celui qu'il prétend être, alors eux, l'élite du peuple, finalement, ils ne sont plus rien. C'est plus eux les personnes les plus importantes du peuple. Et c'est pour ça qu'ils s'endurcissent, qu'ils cherchent à le faire mourir. Parce qu'accepter la divinité de Jésus, accepter qui il est, ça voudrait dire abandonner tellement dans leur propre vie. Ça voudrait dire abandonner la bonne vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça voudrait dire qu'ils ne seraient plus le centre, que les regards ne seraient plus portés sur eux. Ça voudrait dire qu'il faut porter sa croix, qu'il va falloir être le dernier pour être le premier. Je vous rappelle tous ces chapitres qu'on a vus à partir du chapitre 9 qui nous montrent comment on doit agir en tant que disciple. Et tout ça, ils n'en ont pas envie. Ça voudrait dire que finalement, malgré tous leurs efforts, malgré leur connaissance parfaite de la loi, toutes leurs bonnes actions, que tout ça, ça ne suffit pas. Qu'ils sont finalement comme les autres, des pécheurs qui ont besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Et si on pense que ce type de personnages, ces pharisiens, ces autorités religieuses, ces adversaires de Jésus n'existent plus aujourd'hui, on se trompe. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais l'Église est pleine de ces pharisiens. C'est juste que c'est compliqué et difficile de les identifier parce que ce sont eux qui vont à l'église tous les dimanches. Ce sont eux qui participent aux études bibliques. Et de temps en temps, pas abuser non plus aux réunions de prière. Ce sont eux qui connaissent par cœur les cantiques, qui peuvent te réciter des versets de la Bible par cœur, et pour lesquels leur prière semble si inspirée. Mais dans leur cœur, il n'en est rien. Ils ne sont jamais réellement venus à Christ. Et il est en marge de leur vie le reste de la semaine. En privé, Christ est absent. Il le délaisse totalement. Ces personnes-là, ce sont ceux qui pensent mériter le salut par leurs bonnes actions, par leurs connaissances. Mais ceux qui, lorsqu'on les confronte à leurs péchés, ils nous rejettent avec violence. Ce religieux, c'est toi qui es très vite dans le jugement de ton voisin, de ton frère en Christ, et qui pointe du doigt la paille dans son œil sans voir la poutre qui est dans le tien. Ce pharisien, c'est toi qui honores Dieu de tes lèvres, alors que ton cœur est éloigné de toi, de lui. Vous voyez comment finalement, même aujourd'hui, en 2022, on est bien trop souvent dans la même position que ces autorités religieuses, ces pharisiens. Et donc, si c'est ton cas, je t'en conjure, plie le genou et demande pardon. Rappelle-toi que Jésus n'attend pas tes bonnes actions. Il n'attend pas tes bonnes paroles. Ce qu'il attend, c'est ton cœur avant tout. Rappelle-toi ce psaume du psaume 51, que j'avais pris dans ma présidence, et je crois que c'est Nasser l'avait prise également. Psaume 51, verset 19, qui nous dit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur contrit, c'est un esprit brisé. » Voilà ce que Dieu attend de nous. Pas nos bonnes actions, pas nos bonnes œuvres, même si elles sont importantes. Ce qu'il attend avant tout, c'est un esprit brisé. et un cœur contrit. Aussi pour la position de ces autorités religieuses qui cherchent à faire mourir Jésus. Et vient maintenant un deuxième personnage, Pilate. Alors, qui est Pilate ? Ponce Pilate, c'était le gouverneur de Judée. C'est l'homme mandaté par Rome pour s'occuper de cette partie, pour gouverner cette partie du territoire. Il était basé à Césarée, mais il s'occupait également de la ville de Jérusalem. Et en cette période de la Pâque, Jérusalem, c'est la ville la plus importante du moment, et donc il va là-bas pour s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y aura pas à y avoir de grabuge, tout ça. Il faut savoir également que Pilate, il était un peu en froid avec les Juifs. C'est pour ça que d'ailleurs, si on prend le verset 12 de notre texte, on nous dit qu'avec Hérode, ils étaient ennemis et qu'ils sont maintenant amis. Pourquoi ils étaient ennemis ? En fait, il faut savoir que dans l'histoire, vous pouvez lire des écrits historiques de Flavius Joseph notamment, on nous raconte un peu qui est ce Pilate. On nous dit qu'il avait rajouté des insignes de l'empereur Tibère un peu partout dans la ville, ce qui avait créé des grosses révoltes, qui avaient bafoué le temple et les murs de Jérusalem. Il avait également utilisé une partie des fonds sacrés du temple pour construire un aqueduc, ce qui lui avait valu une autre fois une révolte. Bref, il faut savoir que Pilate, il n'était pas en bon terme avec les Juifs. Et pas spécialement en bon terme avec Rome également. Quelques années plus tard, il va même se faire, entre guillemets, licencier lorsqu'il va mal gérer une révolte des Samaritains. Sa position, elle était sur le fil du rasoir. Et ces détails, en fait, ils sont importants parce que ça nous aide à comprendre la position de Pilate, à savoir la position du préoccupé. On arrive au moment de la Pâque, je vous l'ai dit, c'est le moment où tout le monde se réunit, et donc impensable de se mettre à dos le peuple. Tout le monde est réuni, s'il fait une loi impopulaire, s'il prend une décision impopulaire, c'est la fin pour lui. Il ne veut pas se mettre à dos les responsables, surtout en cette semaine sainte. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Lorsque les autorités religieuses arrivent vers Jésus, ils lui disent « Oh, regardez cet homme, il ne veut pas payer le tribut de César ». Un peu pour titiller un peu pour titiller Pilate en se disant il respecte pas l'empereur, si je fais rien, l'empereur il va être encore plus mécontent de moi et je vais être encore plus dans une mauvaise position. Mais Pilate il est plus occupé par autre chose, il est plus occupé pour s'assurer que tout se passe bien. Il n'a pas le temps de s'occuper de cette personne qui est devant lui. Et c'est pour ça qu'on voit que dès qu'il entend que c'est un Galiléen, il se dit ah, c'est bon, ouf, je suis sauvé, j'en ai pas à m'occuper, je vais l'envoyer à Hérode, c'est un juif, c'est lui qui s'en occupe. Imaginez-vous la scène. Faut pas. Ce Jésus arrive, mais Jésus n'est pas comme ça. C'est un peu la scène des fois qui est peinte de Jésus, un peu tout clean, tout neuf. Sauf que Jésus, si on lit le texte à la fin du chapitre 22, et dans les évangiles de Jean, on voit ce qui s'est passé avant, on voit qu'il arrive en sang, qu'il arrive diminué. Il a été humilié, moqué, mis au cachot la soirée. Cet homme-là, il n'a pas la carrure d'un roi lorsqu'il arrive auprès de Pilate. Ce gars devant ce gouverneur, ce n'est pas une menace pour l'empire. Comment un gars ensanglanté, diminué, faible, pourrait être une menace pour le grand empire de Rome ? Donc aux yeux de Pilate, pas besoin de se préoccuper pour rien. Il y a d'autres choses plus importantes à faire, comme s'assurer que la Pâque se passe bien. Dans l'évangile de Jean, Jésus va dire, et ce n'est pas retranscrit dans Luc, qu'il est ici pour rendre témoignage de la vérité. Et quelle est la réponse de Pilate à ça ? Mais qu'est-ce que la vérité ? En mode philosophique, mais c'est quoi la vérité ? Vous avez 3 heures. On peut l'imaginer un peu sur un ton condescendant, hautain. En fait, qu'importe, il ne cherche même pas à argumenter, il ne cherche même pas à décerner le vrai du faux. Ça l'embête, en fait, cette histoire. Il a beaucoup plus important à faire. Et au moindre instant, il en profite pour l'envoyer à Hérode. Vous voyez, c'est ça Pilate. Pilate, c'est pas comme les pharisiens, c'est pas un adversaire de Jésus. C'est juste un gars trop préoccupé par ses propres problèmes. Et d'ailleurs, si on regarde la suite du texte, parce que Jésus va faire une sorte un peu de ping-pong, il va arriver auprès de Pilate, Pilate va l'envoyer vers Hérode, et Hérode va le renvoyer vers Pilate. Et à ce moment-là, on va voir que Pilate, en fait, pour lui, Jésus est innocent. Verset 4, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif pour le condamner. » Verset 14, « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucun acte. Verset 15, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Il faut savoir, dans l'évangile de Matthieu, on nous dit même que sa femme en est convaincue. Mais en pesant le pour et le contre de la situation, parfaite, même si Jésus est innocent, c'était plus à son avantage de se plier à la volonté de ses autorités religieuses, à la volonté du Sanhédrin, à la volonté du peuple. Et il va le faire crucifier, alors même qu'il sait que Jésus est innocent. Il va faire passer ses priorités avant la vérité. Et c'est ça, Pilate. C'est pas un adversaire, mais c'est juste quelqu'un qui a mieux à faire. Et si on pense que ce personnage n'existe plus aujourd'hui, on se trompe. Les Pilates, ce sont ces personnes qui sont tellement distraites par les circonstances de la vie qu'elles ne prennent même pas l'importance de considérer le ministère de Jésus. C'est vous, ces personnes qui croyez en Dieu, vous savez qu'il est le Dieu de la création, on l'a vu tout à l'heure avec Antoine, qu'il a envoyé son fils sur une croix pour mourir à ta place. Ça, tu le sais. Tu le sais que Christ est roi, qu'il est innocent. Tu en es convaincu, un peu comme Pilate, mais ça ne change rien à ta vie. Lorsque les collègues de boulot, lorsque tes camarades de classe commencent à entamer des sujets liés à la religion, à l'éthique, tu es celui qui te fait tout petit. Vous avez vu cette semaine, il y a eu un vote du Congrès aux États-Unis, comme quoi la loi anti-avortement pourrait être votée par tous les États. Et je suis sûr que le vendredi, vous avez dû peut-être en discuter au vos boulot. Quelle a été votre réaction quand vous avez discuté de ça? Est-ce que vous êtes celui qui avait voulu parler de la vérité, ou en tout cas parler de vos convictions? Ou être celui qui a dit « Ah non, j'ai pas entendu les infos » et qui avait voulu détourner le sujet? Est-ce que vous êtes celui qui, pour ne pas aller à la volonté des autres, pour ne pas être en porte-à-feu auprès de vos voisins, de vos amis, de votre famille, vous êtes prêt à vous taire, à mettre de côté la vérité que vous savez? Et puis là, finalement, c'est aussi toi, ces personnes qui ne viennent pas non occultes pour chercher la face de Dieu, pour chercher sa gloire, pour chercher comment le servir. Mais tu viens avec toutes ces questions en tête, c'est ça qui te préoccupe le plus, finalement. Oh, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Quel métier? Quel conjoint? Quelle conjointe? Comment gagner plus d'argent? Finalement, la seule chose qui t'intéresse, c'est qu'est-ce que ça peut t'apporter, toi. Ta vie est plus importante que Jésus. Même si intellectuellement, tu sais qu'il est innocent, tu sais qu'il a donné sa vie pour toi. Ça ne change rien à ta vie. Est-ce que tu es ce Pilate-là? Cette personne tellement préoccupée par ses propres besoins, par sa propre vie, que Jésus n'entre même pas dans l'équation. Tu sais que Jésus existe, il est dans ta voiture, mais c'est le passager. Il est sur la banquette arrière et toi, tu es au volant. Tu ne le laisses pas diriger. Et donc si c'est ton cas, si tu es ce Pilate-là, je t'en prie toi aussi. Plie le genou et demande pardon. Rappelle-toi que Jésus n'est pas venu pour ton confort. Il n'est pas venu pour t'aider dans tes soucis professionnels, sentimentaux. Il n'est pas venu pour te guérir. Il n'est pas venu pour faire que ta vie soit un long fleuve tranquille. Non, il est venu pour régler une fois pour toutes ton plus gros problème, celui de ton péché, de ta séparation avec Dieu. Et donc, comme tout à l'heure, un verset qui peut nous aider dans Luc, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Je vous invite à reprendre le message qu'on avait fait sur ce chapitre-là. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Que votre préoccupation, ce soit ça, et non pas vos problèmes et votre vie. La position de Pilate, le préoccupé. On va maintenant passer à un troisième personnage, une troisième position, celle d'Hérode, le superficiel. Alors, vous voyez que Pilate envoie Jésus auprès d'Hérode lorsqu'il comprend que c'est un juif, un galiléen. Il faut savoir qui est Hérode. L'Hérode dont on nous parle ici, ce n'est pas le même Hérode du tout début de l'évangile, il s'agit ici d'Hérode Antipas, son fils. C'est celui qui, à ce moment-là, régnait sur la Galilée. pour que vous compreniez mieux qui est ce personnage, c'est celui qui a été confronté par Jean-Baptiste pour avoir eu une liaison avec la femme de son frère. C'est celui qui, lorsque la femme de son frère était mécontente de Jean-Baptiste, lui demande que Hérode lui apporte sa tête, et Hérode le fait. Hérode, c'est le gars qui va se marier plusieurs fois avec plein de femmes et qui ne va pas hésiter à tuer ses propres enfants si ces derniers lui causent des soucis. Voyez un peu qui est Hérode. Et donc, lorsqu'on lit ce texte, on se dit, bah, aïe, Jésus, il va voir cet Hérode-là, celui-là même qui avait tué Jean-Baptiste parce que celui-là se prenait comme le messager qui vient, qui arrive. On se dit, bah, ça y est, Jésus va subir le même sort. Sauf que voilà, qu'est-ce que nous dit ce texte ? Hérode est heureux de voir Jésus. Hérode eut une grande joie en voyant Jésus arriver. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il nous dit le texte ? Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Imaginez, Jésus est sur le point d'être condamné, il est fatigué, il est en sang, diminué. Et qu'est-ce que veut Hérode ? Il veut un spectacle. Il veut du cirque, il veut de la magie, du surnaturel, de l'extraordinaire, il veut un miracle. Vous voyez comment la réaction d'Hérode est décalée. Et ça nous montre que pour Hérode, en fait, Jésus, ce n'est pas un roi, ce n'est pas une menace, un peu comme Pilate. Le roi des Juifs, ce ne serait pas cette personne diminuée. Le roi des Juifs, c'est lui, c'est Hérode, c'est lui le grand Hérode. Jésus, selon lui, c'est juste un amuse-galerie comme il y en a eu tant d'autres. C'est juste un divertissement. Jésus, il ne le prend pas au sérieux. Lui, il ne veut voir que l'extraordinaire, le miraculeux. Et si on pense que ce type de personnage n'existe plus aujourd'hui, encore une fois, on se trompe. Ce sont des personnes qui entendent des histoires sur Jésus, sur son identité, sur son ministère, sur sa mort, sur sa résurrection. Mais la seule chose qu'ils retiennent, c'est le surnaturel, c'est les miracles. Jésus qui guérit. Ce sont ces personnes qui recherchent ces choses-là, la guérison, la délivrance, plutôt qu'une relation personnelle avec Jésus. Pourquoi croyez-vous aujourd'hui qu'en 2022, les soirées de guérison remplissent les églises, alors que les réunions de prière se font vides ? Parce que les gens se fichent de la prière, ils se fichent de parler à Dieu, ils se fichent de vivre dans la dépendance à Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est du spectacle. Ce qu'ils veulent, c'est des guérisons, des délivrances, du spectaculaire. Ils viennent à l'église le dimanche matin pour la louange, pour voir des amis, parce que ça envoie, ça claque. Ils y viennent pour s'occuper différemment, pour qu'on s'occupe de leurs enfants s'ils en ont et qu'ils ne savent pas quoi faire le dimanche. Mais dès que vient le moment de la prédication, le moment important du culte, l'esprit est ailleurs. Ce n'est pas extraordinaire une prédication, c'est que du texte. Et le peu qu'ils entendent à la fin du culte, ça ressort direct, ça ne touche pas le cœur. Ce sont des personnes superficielles, comme Hérode. Est-ce que ce n'est pas nous aussi, bien trop souvent, notre position ? Et encore une fois, si c'est ton cas, je t'en conjure, plie le genou et demande pardon. Rappelle-toi que la mission première de Jésus, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas de guérir des malades, ou que sais-je. Sa mission, c'est de s'occuper de ton problème qui te ronge, à savoir celui de ton péché qui te sépare de la gloire de Dieu. Oui, il est venu faire un miracle, celui de changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Mais ce miracle-là, il n'est pas visible, enfin, dans le sens, c'est pas extraordinaire, ça ne se voit pas direct. C'est une transformation parfois instantanée, parfois progressive, selon les témoignages, de ton intérieur, de ton cœur. Rappelle-toi donc ce verset. Tout à l'heure, on parlait du Marc chapitre 10, un peu plus loin dans le chapitre, on a au verset 45, ce verset qui dit « En effet, le Fils de Dieu, l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il n'est pas là pour te servir, pour te guérir, pour faire être une baguette magique qui répond à tous tes besoins. Non, il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La position d'Hérode, le superficiel. Et on va maintenant passer un quatrième personnage, à savoir Barabbas. Barabbas, le coupable. Barabbas, ça signifie en hébreu le fils, Bar, du père, Abba. Bar, Abbas. On reviendra pourquoi, c'est important. Or, ce personnage, dans le texte, il ne parle pas. Enfin, ou en tout cas, on lui attribue aucune parole. On a peu d'informations sur lui. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il a été mis en prison pour une émeute et qu'il a été mis en prison pour un meurtre. Cet homme-là, c'est un meurtrier, un brigand, un criminel. Il est coupable, c'est quelqu'un qui mérite la croix, dans le sens le supplice, le châtiment suprême réservé aux criminels à l'époque de Rome, à cette époque-là. Et c'est vrai qu'on pourrait très vite passer à côté de ce personnage, parce que finalement, il ne parle pas. On dirait un peu comme s'il était juste spectateur et tout se passe bien pour lui. Pourtant, il faut savoir que Barabbas, cet épisode, il apparaît dans les quatre évangiles. Dans les quatre. Les quatre auteurs ont pris le soin de nous parler de ce personnage. Et s'ils l'ont fait, c'est que ça doit être important. Ça peut nous paraître bizarre, on parle de Jésus qui se fait crucifier, qui part à la croix, et on a cet épisode avec ce criminel qui est totalement opposé avec Jésus, qui est déclaré comme innocent. En fait, ce dernier personnage, s'il est si important, c'est parce qu'il nous fait comprendre un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Il nous fait comprendre les différentes positions. Est-ce que vous avez pris le temps, lorsque vous avez lu ces textes, de voir comment Jésus répond à chacune des différentes positions ? Face aux spécialistes de la loi, il répond pas vraiment. Face à Pilate, il répond juste un simple « tu le dis » au verset 3. Face à Hérode, il ne répond même pas. Et là, un criminel va être libéré pour que lui, innocent, même aux yeux de Pilate, aux yeux de sa femme, soit déclaré comme coupable. Et Jésus, il ne dit rien. Il ne dit rien. Et c'est frustrant, on a envie de dire, mais Jésus, mais fais quelque chose, réagis, parle. Est-ce qu'on comprend ce qui est en train de se passer ici? Si Jésus ne dit rien, alors que le coupable devient libre pour que lui, l'innocent, devienne coupable, c'est justement parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. C'est le but même de la croix. Car il fallait que Jésus soit traité comme Barabbas pour que Barabbas soit traité comme Jésus. Voyez un peu ce qui se passe ici. C'est vrai qu'en lisant ces passages, on est peut-être tous confrontés à l'un ou plusieurs de ces différents protagonistes, de ces différentes positions. On a vite tendance à pointer du doigt. Ah, je sais que lui, c'est un pharisien, lui, c'est un Pilate. On voit ces personnages et on se dit, mais ces pharisiens, quel hypocrite, ce Pilate, quel ingrat, tous aveugles, tous obstinés. Mais ce passage, et pourquoi on parle de Barabbas, c'est justement pour nous montrer que ce passage, il parle de nous, il parle de notre cœur. Parce que qui est Barabbas dans ce texte? Barabbas, c'est moi. Barabbas, c'est toi. On est tous des Barabbas. On est tous coupables aux yeux de Dieu. Et on mérite la condamnation. Et ce, même si on n'est pas des criminels, des meurtriers aux yeux de la loi. Pas besoin de ça pour être coupable aux yeux de Dieu. Alors oui, c'est peut-être la première fois que tu viens dans cette église, et je viens de te traiter de criminel, tu te dis, bah purée, super les chrétiens. Super. Ces chrétiens sur leur piédestal qui pensent qu'ils sont meilleurs que nous. Mais non, on n'est pas meilleur que vous, on est pareil que vous. On est coupable tout autant. Sauf que ce que dit la Bible, ouais, c'est qu'on est tous pécheurs. C'est-à-dire que malgré nous, même si on n'est pas des criminels meurtriers, on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Les mensonges, les convoitises, nos colères, nos impatiences, tant de choses qui sont en horreur pour un Dieu saint et parfait. Et à cause de ça, la Bible dit que nous sommes séparés de Dieu et que nous, on mérite la mort. La conséquence de ça, c'est qu'on mérite ce qu'on appelle l'enfer. Nous avons vécu notre vie sans Dieu. Nous vivrons notre mort sans lui. Et c'est pour ça que ce que Jésus fait ici est si capital. C'est pour ça qu'alors qu'il est innocent et que le peuple est en train de choisir le pire des hommes, un brigand, un criminel à sa place, Jésus reste silencieux. Il ne fait rien. Par amour pour Barabbas, il accepte le jugement à sa place. Car il fallait que Jésus soit traité comme Barabbas, comme le pire des malfrats, comme un criminel, pour que le criminel qui est Barabbas soit traité comme Jésus. Il a fallu que le fils du Père soit traité comme un coupable pour qu'un autre fils du Père, le fils de Dieu, soit traité comme un juste pour qu'un autre fils du Père soit traité comme un coupable. C'est ça ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la substitution. Voici le but de sa venue sur terre, recevoir la pleine colère de Dieu, le jugement que nous méritions, c'est nous les criminels, à notre place. Il est venu pour que les religieux que nous sommes, pour que les superficiels que nous sommes, pour que les préoccupés que nous sommes, les criminels que nous sommes, puissent être déclarés justes. Voici le but de sa venue. Et pourquoi ce texte sur la croix est si important. Et on pourrait très vite s'arrêter ici dans ce texte. Mais je voulais voir une dernière position, parce que finalement, quel est le paradoxe? C'est que même si Jésus accepte de donner sa vie, en rançon pour beaucoup, on l'a lu tout à l'heure, seuls ceux qui se positionnent de la bonne manière en auront les bénéfices. Alors, quelle doit être notre position? Que doit-on faire? C'est pour ça qu'on va avoir une ultime position, à savoir la position du brigand sur la croix. Savoir la position du repentant. Alors, on avance un peu dans le récit. Jésus, il est arrivé, il est monté sur la croix. Il a été humilié, crucifié, on a partagé ses vêtements, etc. Et on arrive à la place du crâne où Jésus est auprès de deux brigands, un sur sa droite et un sur sa gauche. Et qu'est-ce que nous disent les évangiles sur ces deux brigands? Matthieu 27, verset 44 nous dit « Il l'insultait de la même manière. » Les deux brigands l'insultent de la même manière. Que nous dit Marc, chapitre 15, verset 32 « Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » Finalement, on se dit « Ah, rebelote. Ces brigands, c'est pareil que le peuple, les autorités, les Romains. Ils l'insultent également. » Le comble du comble, c'est que Jésus se fait insulter par la pire des espèces. Des gens qui ont vécu une vie sans foi ni loi toute leur vie. Après tout, ça peut nous sembler un peu normal. Ils font que ce qu'ils ont fait durant toute leur vie, bafouer l'autorité, bafouer les autres. Ils ne retranscrivent que la haine et le mépris. Et Jésus, encore une fois, ne leur répond pas. Il ne leur répond pas. La seule chose qu'il va faire, on va devoir y passer, même si ce verset est super important, il va prier le Père en disant « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous savez, l'histoire de ces brigands aurait pu s'arrêter là. Parce que certains d'entre vous, ceux qui ont lu le texte, connaissent la suite. On peut imaginer la scène. Ils ont été crucifiés à peu près vers 9h et jusqu'à 12h, entre guillemets, il ne se passe rien. À partir de 12h, il va y avoir de l'obscurité. Mais pendant 3h, voilà, le silence. Ils commencent à l'insulter, mais combien de temps ça dure? 5 minutes? 10 minutes? 15 minutes? On ne sait pas. Ce que je vous raconte là, ça va être un peu fictif, hein, évidemment. J'essaie d'imaginer un peu ce qui se passe. Sauf que voilà, la croix et le supplice de la croix fait son œuvre. Et vous savez que la mort par la croix, c'est une mort par asphyxie. On commence de plus en plus, de moins en moins à avoir de souffle. Et donc, ils se disent, ah, de toute façon, Jésus ne répond pas. Ça sert à quoi de continuer à l'insulter? Et j'imagine que ces 3 heures ont dû être très longues, même pour ces brigands. Et qu'au bout d'un moment, même eux, ils se sont dit, ça ne sert plus à rien de l'insulter parce qu'il ne répond pas. Et je me dis que c'est à ce moment-là que le deuxième brigand, dans ce moment de silence, se met à réfléchir. Parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est à ce moment-là que le miracle s'opère. Ce criminel, on ne sait pas combien de temps ça lui a pris. 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Ce criminel, en réfléchissant à la personne qui est à côté de lui, pour la première fois de toute sa vie, il va comprendre que cette punition sur la croix, que cette punition, il la mérite. Tu nous dis la suite du texte. Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque Nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Je rappelle ce brigand, quelques instants plus tôt, il l'insultait aussi. Mais là, il a compris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a compris, première chose ? Il reconnaît le mal qu'il a commis. Il reconnaît qu'il a mérité cette croix. Nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Première position, celle de reconnaître que nous sommes coupables. Deuxième chose qu'on voit, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît que Jésus, lui, est innocent. Première chose, il reconnaît que lui est coupable. Deuxièmement, que Jésus est innocent. Mais vient la suite de ce texte, c'est peut-être l'un des versets les plus beaux, les plus forts de la Bible. Verset 43, et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Imaginez-vous la scène. Ce brigand et Jésus sont cloués sur une croix, à quelques heures d'une mort certaine. Jésus est ensanglanté, les mains et les pieds cloués, une couronne d'épines à sa tête. Mais pourtant, ce brigand-là, il est convaincu que ce qui se passe là, ce n'est pas la fin. Il est convaincu que cette personne-là, Jésus, va venir régner. Et il l'appelle Seigneur. Attendez, ça peut paraître bizarre, non ? Comment Jésus, alors qu'il est sur une croix, qu'il va mourir d'un instant à l'autre, peut venir régner ? On a ici l'une des personnes, ce brigand avec l'un des moins bonnes connaissances théologiques parmi tout l'évangile, et qui est pourtant la seule personne à comprendre ce qui est en train de se passer. Que ce qui se passe là, ce n'est pas la fin. Il est convaincu que Christ va régner. Physiquement, spirituellement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il comprend de ce futur règne, mais ce qu'il est convaincu, c'est qu'il y aura un après, que Jésus va être le roi de cet après. Et il l'appelle Seigneur. Et la seule chose qu'il demande face à ce Seigneur qui se tient devant lui, il ne demande pas qu'on vienne le sauver. Il ne demande pas, comme il le faisait tout à l'heure, « Oh, sauve-toi toi-même !» Et nous aussi, hein. Voici ce qu'il crie au début. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander « Souviens-toi de moi dans ton règne. » À deux doigts de la mort, il y a même quelque chose qui transcende son instinct de survie, qui est plus importante que sa propre vie. C'est le Seigneur qui se tient à ses côtés. Vous voyez ce qui se passe ? Vous voyez la position de ce brigand ? Reconnaître que nous sommes coupables et qu'on mérite la mort. Reconnaître que Jésus, lui, est pourtant innocent. Il a été crucifié sur une croix à notre place. Reconnaître que notre seul espoir, c'est en ce Seigneur qui allait jusqu'à subir la plus horrible des morts par amour pour nous. Reconnaître que son règne est plus important que notre propre vie. Voici la position du brigand. Est-ce que cette position, c'est également la tienne ? Mais avant de conclure, je voulais vous conter une courte histoire que certains ont peut-être déjà entendue. C'est l'histoire de Lise. Lise, c'est une petite fille de 5 ans qui a été diagnostiquée atteinte d'une maladie rare et qui va avoir besoin en urgence d'une transfusion de sang. Après les analyses des docteurs, etc., ils reviennent, ils lui font comprendre que son seul espoir, c'était de recevoir du sang de son frère jumeau qui avait le même type de sang qu'elle et qui, lui, avait survécu, après analyse, à la même maladie dont Lise était atteinte. Il avait les bons anticorps. Et donc, le docteur va voir son frère jumeau et lui explique que pour sauver sa sœur, il va falloir qu'il donne son sang. Et lorsqu'il entend ça, l'enfant se met à pleurer, à crier, il s'en va vite, il tape du pied. Il avait peur. Normal, au vu de la situation. Après quelques minutes, l'enfant revient dans la salle. C'est encore les larmes aux yeux. Et il accepte. Il accepte de donner son sang à sa sœur. Donc le docteur commence, le docteur, les infirmières, ils arrivent, ils commencent à préparer l'opération. Les deux jumeaux sont placés l'un à côté de l'autre. La sœur Lise est placée dans un coma artificiel. Et ils vont commencer à piquer l'enfant. On voit le sang qui est en train de se déplacer du garçon à la petite fille. Donc oui, forcément, le petit enfant n'est pas très bien à l'aise, il est tout rouge. Mais on voit que petit à petit, sa sœur commence à reprendre des couleurs. On voit que ça a l'air de faire quelque chose. Et là, le docteur, il voit l'enfant qui est tout rouge, qui est limite en train de pleurer, mais qui se contient, qui serre fort les mains. Il se contient. Et donc là, le docteur dit, c'est bon, on a pris assez de sang, l'opération est terminée. Donc il arrive vers le petit enfant, il est en train de lui enlever toutes les aiguilles, tout ça. Et l'enfant lui dit, docteur, est-ce que c'est bientôt maintenant que je meurs ? Le jeune garçon, c'est pour ça qu'il avait si peur, pourquoi il était en pleurs, c'est qu'il pensait qu'avec cette transfusion, il donnerait littéralement sa vie pour sa sœur. D'où ses pleurs, d'où sa crainte. Alors oui, si cette histoire est vraie, elle nous émeut. Elle nous touche. Forcément, un jeune garçon de 5 ans, prêt à donner sa vie pour sa sœur jumelle. On aimerait avoir ne serait-ce qu'une once de courage et d'amour, comme ce petit garçon. Mais pourtant, si cette histoire nous émeut, dites-vous que c'est rien du tout par rapport à ce que Jésus a fait lui-même. Lui, il n'était pas au chaud dans un hôpital avec toutes les prouesses de la science. Il a été moqué, humilié, roué de coups, transpercé. On l'a cloué sur une croix. Son sang n'a pas été transfusé par une aiguille, mais il a coulé de tout son corps à cause des fouets, des clous, des épines. Et vous savez, il ne l'a pas fait pour quelqu'un de sa famille, pour un ami, pour une sœur. Non, il l'a fait pour des religieux. Il l'a fait pour des gens superficiels comme Hérode. Il l'a fait pour des préoccupés comme Pilate. Il l'a fait pour des criminels, pour des coupables comme Barabbas, comme ce brigand, comme nous. Il l'a fait par amour, pour nous. Qu'alors que nous étions encore des pécheurs, des criminels, Christ est mort pour nous. Il a été traité comme un criminel pour que les criminels que nous sommes puissions être déclarés justes et libérés. Mais le paradoxe est que seulement certains en seront bénéficiaires. Ceux qui, comme le second brigand, reconnaissent que ce sont eux les coupables, qu'on mérite la mort, la colère de Dieu. Ceux qui reconnaissent que leur seule espérance, c'est Jésus, qu'il n'y a qu'un seul médiateur, un seul sauveur, un seul Messie, Jésus, celui-là même qui a vaincu la mort et est retourné auprès du Père pour nous préparer une place, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Celui-là qui, pour une fois dans tout le récit, ne reste pas silencieux, mais nous réconforte face à la mort qui nous attend en nous disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et toi alors, quelle est ta position face à Jésus ? Quelle est ta position face à la croix ? Celle des premiers personnages ou celle de ce brigand sur la croix ? Tu pourrais te dire, à quoi bon ? J'ai le temps. C'est ce que tu crois, mais cette position, elle change tout. Un peu comme 4 gouttes d'eau qui tombent du même nuage et peuvent retomber dans 4 pays différents. Voici 5 positions qui, elles, peuvent t'emmener vers une éternité bien différente. Alors, quelle serait la pire des positions à choisir ? Dans un film qui est sorti en 2016, qui s'appelle « La résurrection du Christ », c'est une question qu'on pose au personnage principal, ce tribun qui s'appelle Clavius, et on lui demande « Mais choisir, ne pas choisir, qu'est-ce qui t'effraie ?» Et voici sa réponse. Me tromper et miser l'éternité là-dessus. Me tromper de position et miser l'éternité là-dessus. Puisses-tu méditer la chose ? Quelle est ta réaction face à Jésus ? Quelle est la réaction face à la croix ? Puissions-nous méditer là-dessus ce matin ? Amen.